Emmanuel Jean, bonjour. On vous rencontre ici pour prendre un petit peu de vos nouvelles. Donc, on s'était vu pour la première fois en avril, à l'issue de la grande découverte qui avait été fortement médiatisée, donc du système TRAPPIST. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques nouvelles? Comment ça avance, vos recherches sur TRAPPIST?
Alors, on continue à explorer le système de ces sept planètes, notamment en observant toujours avec nos télescopes TRAPPIST très régulièrement les transits donc des différentes planètes, donc ces moments où les planètes passent devant leur étoile, parce qu'on s'est rendu compte que donc, les orbites se décalaient les unes par rapport aux autres à cause d'interactions entre les planètes. Et ça permet en fait de pouvoir calculer les masses des planètes, ce qui est très important, parce que combiné avec les tailles qu'on peut obtenir par la méthode du transit, quand vous avez la masse, la taille, vous avez le volume et donc vous avez la masse volumique, ce qui permet d'obtenir des informations sur la nature de chacune de ces planètes. Et donc c'est très important et cette année a été très occupée à faire ce genre de mesures. Et un papier, un nouvel article a été soumis, il y a d'ailleurs déjà quelques mois, permettant de préciser encore bien mieux les donc densités de chacune de ces planètes et donc leur nature. C'est là qu'on s'est rendu compte que notamment une de ces planètes pourrait être un monde océan, donc un monde qui serait fait en grande partie d'eau, en tous les cas beaucoup plus que sur notre planète, et qui pourrait recouvrir complètement la surface de cette planète. Une autre chose, c'est également, il y a encore eu des observations pour essayer de détecter les atmosphères avec le Hubble Space Telescope, mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas arrivés à détecter ces atmosphères. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'en fait, ça montre que, en tous les cas, ces planètes n'ont pas des atmosphères très étendues d'hydrogène et d'hélium, et que c'est toujours compatible avec des atmosphères compactes, c'est-à-dire typiques par exemple de la Terre, de Vénus ou de Mars. Mais on ne pourrait pas faire la différence entre ces trois atmosphères juste avec ces observations. Donc on attend impatiemment en fait le lancement du fameux James Webb Space Telescope, le prochain grand télescope spatial de la NASA qui devrait être lancé dans quelques années.
Simplement, est-ce que vous pourriez faire un petit rappel sur ce qu'est la méthode de transit que vous utilisez ici ?
Oui, donc la technique des transits, en fait, ça se passe dans notre système solaire également. Parfois, depuis la Terre, on peut voir les planètes internes, Mercure et Vénus, qui passent juste pile devant le disque du Soleil. Et comme les planètes sont des objets qui sont opaques, elles ne laissent pas passer la lumière de l'étoile qui est derrière. Donc quand on fait une photo du Soleil, quand une planète passe en transit, on voit un petit disque noir qui progressivement se déplace devant le disque du Soleil. Et ça bloque la lumière du Soleil. Donc si vous mesurez le flux qui arrive sur Terre, pendant qu'une planète transite devant son étoile, vous avez en fait une baisse du flux. Et on surveille les étoiles, en fait, nous dans notre cas, une par une, parce que nous regardons des étoiles très particulières. On a choisi d'observer des étoiles de type naine ultra froide. Ce sont les plus petites étoiles que l'on connaisse, qui sont 10 fois plus petites que le Soleil, qui ont en fait la taille de Jupiter, qui sont 10 fois moins massives que le Soleil. Ça fait à peu près 80 fois la masse de Jupiter, par contre. Et c'est réellement une étoile parce que vous avez des réactions de fusion nucléaire à l'intérieur de ces petites étoiles. Et donc, on regarde autour de particulièrement ces petites étoiles ultra-naines froides qui sont distribuées plic-ploc dans le ciel, je dirais. Donc là, on ne peut pas surveiller des milliers d'étoiles à la fois, comme le fait Kepler, par exemple, dans l'espace, ce satellite de la NASA, qui lui regarde des portions, notamment dans la Voie lactée, où vous avez des milliers d'étoiles dans un seul champ d'observation, tandis que nous, on les regarde une par une.
Donc d'après ce que je comprends, vous êtes vraiment spécialisé dans l'observation d'étoiles dites froides, de naines froides. Quel est l'intérêt en fait d'observer ces étoiles-là en particulier ?
Oui, alors c'est une très bonne question et c'est ce qui a fait la particularité de la découverte de TRAPPIST-1. C'est une idée de Michael Gillon, de finalement ne pas regarder vraiment des analogues terrestres autour d'étoiles de type solaire, parce que le problème, la zone habitable autour du Soleil, c'est quoi ? C'est un an. C'est donc des orbites de un an. Donc, pour trouver ces planètes, typiquement, elles ne passent qu'une fois tous les ans devant leur étoile. Il faudrait attendre de façon continuelle un an pour pouvoir avoir la chance de la voir passer devant son étoile. Si jamais le jour où elle passe, il y a des nuages, si jamais il y a un problème technique avec le télescope, ou si elle passe pendant la journée, vous êtes foutu. Et donc, vous devez encore attendre un an de nouveau. Vous voyez, c'est totalement inefficace. C'est une des premières raisons, parce qu'ici, la zone habitable autour des petites étoiles ultra-froides, qui sont donc beaucoup moins lumineuses, beaucoup plus petites, la zone habitable est beaucoup plus proche, n'est pas de un an, mais est de 10 jours. Donc, la planète repasse beaucoup plus souvent devant l'étoile, et donc là, vous avez plus de chances de pouvoir l'attraper. C'est une première raison. La seconde raison, c'est que pour une planète de même taille, on va prendre la taille de la Terre, hein, par exemple, ce qui nous intéresse au plus près, comme l'étoile a un diamètre 10 fois plus petit, ça veut dire une surface 10 fois plus petite, le contraste va être beaucoup plus élevé, donc 100 fois au total, par rapport à une planète de type terrestre passant devant une étoile de type solaire que la même planète, Terre, passant devant une petite étoile. Elle va donc cacher plus de la surface de l'étoile relativement, donc la baisse de luminosité va être plus facile à détecter, ce qui a permis finalement de faire cette détection des planètes trappistes-1 avec un relativement petit télescope comme le télescope Trappiste.
Et si je ne me trompe pas, c'est la spécificité et l'originalité de l'idée de votre équipe d'étudier ces étoiles-là en particulier.
Tout à fait, exactement. C'est finalement sortir un peu des sentiers battus. De un, c'était un gros risque aussi parce qu'aucune planète n'avait été trouvée autour de ce genre d'étoiles, d'abord. Et oui, deuxième chose, on avait surtout envie de trouver des planètes Terre autour d'un Soleil comme la Terre pour que ce soit le plus semblable possible à ce qu'on connaît. Mais n'ayant pas les moyens de la NASA et des milliards à consacrer pour pouvoir faire un télescope de ce genre de type, il a fallu bien aussi réfléchir à ce qui était faisable. Et là, c'était un pari, et ça a été un pari gagnant, finalement, puisque ça a permis la détection des planètes trappistes-1. Et maintenant, nous l'espérons, nous avons une grosse longueur d'avance sur les autres équipes, avec Spéculoos qui se met en route déjà maintenant, avec ses 4 télescopes de 1 mètre de diamètre, pour trouver d'autres systèmes semblables.
Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus quant à ce projet-là ?
Oui, donc Spéculoos, c'est un projet donc, de Michael Gillon, hein, qui dirige l'équipe Spéculoos, qui aujourd'hui est devenue une grosse équipe internationale avec de nombreuses universités et d'ailleurs de nombreuses nationalités également dans ce projet. Michael a obtenu un crédit européen, un ERC, grant, comme on dit, une bourse de recherche européenne. Pour les scientifiques, c'est ce qui existe de mieux. Et grâce à cet argent, donc, il a pu lancer le projet Spéculoos, qui est finalement ce qu'on a fait en tant que prototype sur les Trappistes pendant 6 années, mais cette fois-ci à grande échelle. C'est-à-dire on passe à des télescopes beaucoup plus gros, des télescopes de 1 mètre de diamètre plutôt que des télescopes de 60 cm, des grosses machines dans un autre site, Paranal, qui est encore un meilleur site, et on n'a pas un seul télescope, mais on en a 4 sur place. Et nous avons donc aujourd'hui officiellement inauguré, donc en fait quasi le jour de la Saint-Nicolas, l'observatoire Spéculoos, avec un nom typiquement bien de chez nous. Chaque télescope, en fait, est pointé sur une des étoiles qui ont été sélectionnées. On est parti pour 10 années d'observation intense. Chaque télescope observant une de ces étoiles l'une après l'autre et pendant entre 10 et 20 nuits. Ce qui nous donne une probabilité d'environ 75% de chance de trouver autour d'une étoile donnée, si on la regarde entre 10 et 20 nuits, ça dépend un petit peu de son type spectral, c'est-à-dire ça dépend un peu de sa taille et de sa température, mais si on reste entre 10 et 20 nuits, on devrait pouvoir avoir une chance, 75% de chance, de se choper une de ces planètes.
Je me permets de citer le professeur Pierre Wolper, qui est donc le recteur de l'Université de Liège, qui pronostique que dans 10 ans, nous aurons découvert de la vie ailleurs dans l'univers. Est-ce que vous le rejoignez et quels sont vos espoirs à ce niveau-là?
Alors oui, c'est en fait le discours du recteur de l'Université de Liège lors de l'inauguration de Spéculoos. En effet, c'est évidemment notre vœu le plus cher, parce qu'en effet, les 10 années qui viennent sont assez exceptionnelles à ce niveau-là. On a déjà le système Trappist-1 qui présente 3 planètes de type terrestre dans la zone habitable et qui aujourd'hui est la meilleure chance de découvrir en effet de la vie dans un autre système planétaire. Puis nous avons les Spéculoos qui se mettent en route et on espère trouver des planètes semblables tous les ans. Et il y a donc le James Webb Space Telescope qui va être envoyé dans 2 ans dans l'espace, qui lui devrait permettre donc de découvrir les atmosphères, si elles existent, de ces planètes, mais mieux que ça, également pouvoir détecter les biosignatures, donc détecter en fait des composés chimiques dans l'atmosphère de ces planètes, qui sont des révélateurs possibles de vie sur ces planètes. Si vous trouvez de l'ozone, de l'eau, du méthane et aussi du CO2 dans l'atmosphère de ces planètes. C'est un cocktail qui est très difficile à faire de façon géologique, parce que relativement instable, etc. Et qu'on montre qui peut être tout à fait lié à une activité biologique. Donc on ne verra pas s'il y a de la vie sur la surface de ces planètes encore, mais si on arrive à détecter ces composés dans l'atmosphère de ces exoplanètes, on aurait quand même une grosse indication qu'il y a peut-être de la vie sur ces planètes. Donc j'ai envie de dire oui également, parce que tout semble réuni, que généralement aussi les choses vont parfois plus vite que ce qu'on pense. On ne s'attendait pas du tout à découvrir si rapidement un système aussi extraordinaire que TRAPPIST-1. Il y a d'autres découvertes à faire, on l'espère, dans les prochaines années. Il y a probablement aussi d'autres équipes qui travaillent sur des projets tout à fait intéressants et qui pourraient faire aussi des révélations intéressantes. Donc je dirais oui, simplement parce que j'ai envie d'y croire.